Alors, je voudrais terminer ces commentaires de façon à achever la partie commentaire de texte de ce cours pour que le 15 janvier, je puisse vous présenter 2 heures de suite un certain nombre d'images, d'œuvres d'art qui, à la fois, nous feront un petit peu revenir sur Vasari, mais en même temps, nous éclaireront les aspects les plus liés à la description, à sa sensibilité à l'art, que je ne le fais en lisant ces textes. Alors, ce que je voudrais encore dire après cette longue lecture, c'est que au moment de la deuxième version des Vies, Vasari est au service de la cour des Médicis, il ne faut pas tout de même oublier cette circonstance particulière, et le développement de l'art italien doit s'en ressentir. Il y a au cœur de cette conception qu'a Vasari de son travail l'idée de la ville élue, Florence, la ville élue, la ville à laquelle échoit une mission culturelle à l'échelle européenne. C'est un très ambitieux programme dont les Vies de Vasari constituent un jalon, plus qu'un jalon, très important. Alors, après avoir vu ces aspects du livre et en quoi il va approfondir et développer son point de vue par rapport à la première version, celle de 50, je voudrais passer à une deuxième partie où je vais plutôt examiner la question du témoin oculaire des œuvres et l'historien du style. Comment Vasari, d'une certaine manière, dépasse ce qu'il annonce en se faisant l'historien du style. Et ce que c'est que le style pour lui, enfin, qu'est-ce que ça représente? Dans la première version, déjà, Vasari se met en scène pour raconter, dans une sorte de récit fondateur, l'origine de son œuvre. Pourquoi, dans quelles circonstances a-t-il décidé d'écrire les Vies? Alors, la scène se passe au palais Farnèse, avec le cardinal et avec Giovio, G-I-O-V-I-O, qui est lui-même un littérateur, quelqu'un qui a écrit sur l'art. Et la scène est censée se passer en 1546. Je dis censée se passer parce que nous sommes vraisemblablement en grande partie dans un récit fictif. Ça doit être une fiction. Comme souvent, les récits fondateurs sont des fictions. Mais c'est évidemment pour nous tout à fait intéressant de voir que comment Vasari se met en scène. Vous allez voir le jeu de questions et de réponses, de propositions et de contre-propositions, le jeu de modestie et en même temps d'orgueil, tous ces pôles entre lesquels ce texte se situe. À cette époque-là, souvent le soir, après ma journée de travail, j'allais assister au repas de l'illustre cardinal Farnèse, chez qui se rassemblaient toujours nombre d'érudits et d'esprits éminents, comme Molza, Annibal Caro, Messire Gandolfo, Messire Claudio Tolomei, Messire Romolo Amaseo, Monseigneur Giovio, qui composaient la cour du cardinal et l'entretenaient de leurs brillants propos. Un soir, on en vint à parler du musée de Giovio et des portraits d'hommes célèbres qui y sont accrochés, bien classés et accompagnés de belles légendes. Vous voyez qu'on est là déjà dans dans l'illustration de cette tradition historiographique dans laquelle Vasari lui-même va s'intégrer, c'est-à-dire les hommes célèbres. Passant d'un sujet à l'autre, comme cela se produit dans une conversation, Monseigneur Giovio dit avoir toujours eu grande envie d'ajouter à son musée et à son livre des éloges, son livre des éloges, un traité où l'on parlerait des hommes qui se sont illustrés dans l'art du dessin depuis Cimabue jusqu'à nos jours. Au fur et à mesure qu'il développait son sujet, Giovio montra d'incontestables connaissances et un jugement sûr dans le domaine de l'art. Mais il est également vrai qu'il se contentait de faire un ramassis de tout sans prendre garde aux détails. Souvent, en bavardant sur ses artistes, il confondait les prénoms, les surnoms, les lieux d'origine et les ouvrages, ou bien il ne rapportait pas de faits précis, mais très approximatifs. Son intervention terminée, le cardinal se tourna vers moi et me dit « Qu'en dites-vous, Giorgio ? Ne serait-ce pas là un bel ouvrage et un bon travail ?»« Certainement, illustre seigneur, répondis-je, à condition que Giovio soit aidé par un spécialiste de l'art pour remettre les choses à leur place et les relater exactement. Je dis cela car, même si ce qu'il a dit est remarquable, il a confondu beaucoup de choses. » Le cardinal, prié par Giovio, Caro, Tolomei et les autres, ajouta « Peut-être pourriez-vous lui procurer vous-même un résumé et des informations classées par ordre chronologique sur tous les artistes en question et sur leurs œuvres. Ainsi, grâce à vous, les arts que vous cultivez gagneront-ils encore cet avantage ?» Bien que me rendant compte que c'était au-dessus de mes forces, je promis de m'en occuper volontiers de mon mieux. Je commençais à fouiller dans mes souvenirs et à rassembler tout ce que j'avais écrit sur ce sujet dès ma prime jeunesse, autant par plaisir que pour le culte que je vouais à la mémoire de nos artistes, qui me rendait précieuse toute information les concernant. Je réunis tout ce qui me semblait concerner ce sujet, je le portai à Giovio, qui, après avoir beaucoup loué mon travail, me dit « Mon cher Giorgio, je veux que ce soit vous qui vous chargiez de rédiger cet ouvrage, car, d'après ce que je vois, vous saurez parfaitement vous en tirer. Je n'ai guère le désir de le faire moi-même, car je ne sais pas la façon de procéder, et j'ignore beaucoup de détails que vous connaissez. Quoi que je fasse, je ferai tout au plus un petit traité semblable à celui de Pline. Faites ce que je vous dis, Vasari, car d'après votre essai, je vois que vous réussirez parfaitement. » Comme il avait l'impression que je n'étais guère décidé, il demanda à Caro, à Molza, à Tolomei et à d'autres de mes amis, les plus chers, d'intervenir auprès de moi. Ayant fini par m'y résoudre, j'y mis la main avec l'intention, une fois le travail fini, de le confier à l'un d'entre eux qui le reverrait, le corrigerait et le publierait sous un autre nom que le mien. Le récit est tout à fait étonnant. Jusqu'au bout, Vasari ne veut pas s'engager dans ce projet. Par une modestie appuyée, trop appuyée tout de même, il voudrait d'abord aider Giovio. Ensuite, quand Giovio lui demande de le faire, il ne se sent pas en mesure de le faire. Il faut encore que tous les autres amis de ce cénacle aillent le supplier de le faire. Et même lorsqu'il dit enfin qu'il va le faire, il dit que, pour le finir, il le confiera à l'une de ses personnalités littéraires de ce cénacle pour qu'elle fasse quelque chose de correct de ce travail le corrige en tout cas, et qu'il le publierait sous un autre nom que le sien. C'est assez extraordinaire tout de même, hein, ces reculs jusqu'au moment où il dit « je vais le faire », mais là encore il ne le fait pas, puisqu'il ne le signe pas. Tout cela va être infirmé par la suite des événements, et nous savons que Giorgio Vasari va évidemment signer son œuvre et être considéré comme un des très grands historiens du XVIe siècle. Alors, ce qui surtout apparaît, c'est que il veut dépasser le modèle de Pline et donc de Giovio, puisque Giovio avait dit qu'il ne saurait faire davantage que refaire Pline, mais évidemment pour l'art moderne, enfin pour l'art récent. À la différence de l'un et de l'autre, Vasari va écrire une histoire basée sur son expérience personnelle d'artiste, qui lui permet de comprendre l'art, je dirais, du dedans, c'est-à-dire à travers les pratiques artistiques, à travers les techniques, les supports, les procédures différentes que les artistes emploient. Et ça, évidemment, aucun des hommes faisant partie de ce cercle farnésien n'est capable, cela va de soi, de le faire. La vérité en histoire, pour Vasari, réside dans les détails de la narration, dans tout ce qui est apporté par le narrateur comme information directement puisée à la source, directement issue de ses conversations avec les artistes. Et un historien écrivant l'histoire est pour Vasari l'équivalent d'un artiste imitant la nature. Ils font l'un et l'autre quelque chose d'analogue. Donc au fond, la mimésis, l'imitation de la nature et l'écriture de l'histoire, dans la mesure où l'histoire est effectivement modèle de vie, sont deux choses absolument analogues. Je vous montre ici un passage dans lequel apparaît Vasari comme étant précisément très près des artistes. Là, il se met en scène cette fois-ci au milieu des artistes, au cœur d'une, on pourrait dire, d'une communauté qui témoigne d'une grande solidarité, et pour renforcer encore cette solidarité et pour faire éclater le nom de cette communauté florentine, Vasari se livre à ce travail, dont il dit à plusieurs reprises, vous l'avez entendu, qu'il était très difficile, qu'il n'y arriverait jamais, que ce serait au-dessus de ses forces. Et on peut concevoir, en effet, que la réunion de la documentation elle-même a constitué une tâche, un labeur considérable. « Mes chers et excellents artistes, j'ai toujours tiré un si grand plaisir, en même temps qu'honneur et profit, de la pratique de notre art si noble, que je n'ai pas seulement souhaité avec ardeur l'exalter, le célébrer et de toutes les façons possibles le mettre à l'honneur. J'ai eu aussi un grand attachement pour tous ceux qui y trouvent la même satisfaction et ont su le pratiquer avec plus de bonheur peut-être que moi. J'estime que cette disposition et la sincérité de cet attachement m'ont apporté jusqu'ici les fruits qu'elle mérite, car vous m'avez tous toujours porté amour et honneur, dans un rapport que j'ose dire intime et fraternel entre nous, où nous nous montrons réciproquement nos productions en échangeant, selon l'occasion, conseils et aides réciproques. Vous voyez bien cette communauté qui se tient informée des progrès que font les uns et les autres, et c'est de là que Vasari tire véritablement l'essentiel de son originalité, pense-t-il. Cette affection, et plus encore l'excellence de vos talents, ainsi que cette disposition si puissante chez moi par nature et par choix, m'ont toujours fait un devoir de vous plaire et de vous servir, de toutes les manières et par tous les moyens qui m'ont semblé utiles à agrémenter ou faciliter votre travail. Je publiais donc en 1550 les vies des meilleurs et des plus illustres des nôtres, à la suite de circonstances que j'ai rapportées ailleurs, et aussi, pour être exact, par indignation de voir que tant de mérites avaient été si longtemps et restent encore ensevelis. Ce travail ne semble pas avoir été fait en vain. Il a été si bien accueilli que, outre ce qu'on m'en a dit ou écrit de divers côtés, on ne trouve plus chez les libraires un seul exemplaire de l'important tirage qui fut imprimé. Vous voyez que là, on n'est plus du tout dans le ton de la modestie. J'entendais chaque jour les demandes des amis Je connaissais les souhaits tacites de beaucoup. Bien qu'engagé dans des ouvrages de grande importance, je me suis donc remis à ce travail, dans le dessein d'abord d'ajouter les vies de ceux dont la disparition me fournissait l'occasion d'une biographie complète, et ensuite de corriger ce qui, dans la première édition, se révélait imparfait. Car j'ai eu le temps de mieux comprendre certains ouvrages et d'en revoir beaucoup. Certains ouvrages, il ne parle évidemment pas de livres, il parle ici d'œuvres d'art. Grâce à l'encouragement de ces illustres seigneurs auxquels je suis attaché, qui abritent et protègent le mérite, et grâce à la facilité qu'ils m'ont accordée d'explorer de nouveau toute l'Italie, de voir et de comprendre bien des données dont je n'avais pas été informé. J'ai donc pu corriger et ajouter, si bien que beaucoup de vies ont été pratiquement refaites, quelques-unes qui manquaient pour les maîtres d'autrefois ont été ajoutées. Afin de mieux raviver le souvenir de ceux que j'honore tant, je n'ai épargné aucun effort, peine ni dépense, pour retrouver et placer en tête de leur vie leur portrait. Pour satisfaire des amis non praticiens, mais très attachés à l'art, j'ai résumé l'essentiel de l'activité des vivants dont le nom mérite d'être cité. La réserve à laquelle je m'étais tenu n'est pas justifiée à tout prendre, puisque rien ne se propose ici que d'élevé et de digne d'éloge. Ce sera peut-être là un aiguillon pour chacun à travailler au mieux et à progresser, de sorte que l'historien à qui reviendra la suite de cette tâche pourra l'accomplir avec plus d'élévation, car il aura à présenter les œuvres de plus en plus singulières et parfaites que le monde verra sortir de vos mains, suscitées par le désir d'immortalité et réalisées par l'ardeur de merveilleux talents. Les jeunes qui suivront, stimulés par la gloire, l'intérêt est moins puissant, pourront être incités par l'exemple à la conquête de la perfection. Alors, il dit là que il s'adresse aussi à des non-praticiens. Ça, c'est quelque chose de tout de même important. Les non-praticiens, c'est qui ? Ce sont les amateurs d'art, ce sont des collectionneurs, ce sont des personnes intéressées par les choses de l'art. Et donc, le fait de faire l'éloge des vivants peut aussi inciter ses lecteurs à commander des œuvres à ces vivants. Il y a là la mise en place, je dirais, d'une sorte de relais qui mettrait à même ses lecteurs non praticiens de connaître ce qu'il y a de meilleur dans la production artistique contemporaine. Et puis, par là même, il va aussi encourager les plus jeunes qui comprendront que être l'objet d'éloge dans un livre comme celui de Vasari ou d'un de ses successeurs qui prendra son relais, et c'est quelque chose de tout à fait important. Donc au fond, il va jusqu'à dire que la production artistique d'un artiste peut être aiguillonnée, peut être suscitée, peut être poussée fortement à se développer grâce à la stimulation de la gloire. Pour que cet ouvrage soit complet et n'ait besoin d'aucun complément extérieur, j'y ai ajouté l'essentiel des œuvres des artistes antiques célèbres, grecs ou autres, dont Pline et les auteurs nous ont conservé le souvenir. Sans leur filie, elles auraient, comme tant d'autres, sombré dans l'éternel oubli. Cette réflexion pourra stimuler l'esprit au travail de qualité. Devant la noblesse et la grandeur de notre art, devant l'estime et les récompenses que lui ont accordé les plus nobles génies et les plus puissants princes, nous brûlerons de couvrir le monde d'œuvres nombreuses et d'une rare excellence. Que celui-ci, embelli par nos soins, nous tienne au même degré d'estime que ces fameux et merveilleux esprits. Accueillez donc avec gratitude ce travail que j'ai mené avec amour à bonne fin pour la gloire de l'art et l'honneur des artistes. Voyez-y un signe, un gage certain que mon cœur ne désire rien que votre gloire, que votre grandeur et votre gloire. Ayant été admis dans votre compagnie, J'en suis profondément reconnaissant et heureux. Il me semblera toujours que, d'une certaine manière, j'y participe. Vous voyez que, d'une certaine façon, c'est presque une dédicace. C'est presque une dédicace de l'œuvre à cette communauté d'artistes au sein de laquelle il se sent si bien. C'est à elle que cet ouvrage est destiné, que cet ouvrage, en tant que modèle de Vita Magistrae, est bel et bien destiné. Alors, il va à présent expliquer comment son livre se compose, combien de parties il va comporter et comment ces parties, concernant les trois arts, architecture, sculpture et peinture, sont tous placés sous le dessin, sous l'autorité du dessin. Je commencerai donc par l'art le plus universel, le plus nécessaire et le plus utile aux hommes, l'architecture, que les deux autres sont faits pour servir et orner. Donc sculpture et peinture sont au service de l'architecture. Je décrirai brièvement les différentes variétés de pierres, les manières de bâtir, les proportions à respecter et le moyen de reconnaître les constructions bonnes et bien conçues. Puis, je passerai à la sculpture, montrant la fabrication des statues, la forme et les proportions souhaitables, le moyen de reconnaître les bonnes sculptures, avec l'exposé de toutes les techniques les plus spéciales et les plus nécessaires. Le fait de signaler que son livre servira aussi à reconnaître les bonnes sculptures, cela montre qu'il souhaite donner une dimension critique, analytique, descriptive, mais dans le sens d'une sensibilisation du lecteur à ce qui est beau, ce qui est réussi et ce qui ne l'est pas. Une sorte de vade-mecum, si vous voulez, de l'amateur. Enfin, abordant la peinture, je parlerai du dessin, du coloris, de la parfaite exécution, de la qualité de la peinture même et de tout ce qui s'y rattache. Mosaïques de tout genre, niel, émaux, damasquinures et enfin des estampes. Ce faisant, je veux croire que mes travaux seront agréables aux profanes et à la fois agréables et profitables à ceux du métier. Ils retrouveront dans l'introduction des exposés techniques et dans les vies des informations sur l'emplacement des œuvres et le moyen de reconnaître leurs défauts et leurs qualités, de distinguer les styles. Ils pourront aussi découvrir comment louanges et honneurs vont à qui sait unir le talent dans l'exercice d'aussi nobles arts et la dignité d'une vie honnête. Ces éloges leur donneront l'ardeur de s'élever à leur tour à la véritable gloire. Donc de nouveau, il insiste sur le fait que ce livre est aussi destiné aux profanes, donc ceux qui ne sont pas artistes, et profitera aussi aux hommes de métier. Donc c'est un ouvrage qui a une ambition, je dirais, d'être aussi une sorte de manuel, d'une certaine façon, on pourrait dire cela, de manuel, mais à double fonction, le manuel pour les artistes et le manuel pour les amateurs. C'est pas que les deux puissent s'y retrouver et donne bien le plan de chaque partie. Et l'on ne tirera pas peu de fruits de l'histoire, guide et maîtresse véritable de nos actions, devant l'infinie diversité des événements malheureux qui, par leur propre faute ou par celle du hasard, surviennent aux artistes. Tirer des leçons morales, d'une certaine façon, de la manière dont les artistes peuvent réagir aux circonstances de la vie. Il me resterait à m'excuser d'avoir parfois usé de termes éloignés du pur toscan. Mais je n'en veux point parler, car j'ai toujours choisi d'employer les termes et vocables spécifiques et techniques, sacrifiant l'élégance et la recherche de ceux qui sont propres aux écrivains. Qu'il me soit donc permis d'user de ma langue personnelle et de la terminologie de nos artistes. Donc là, il fait intervenir quelque chose qui est évidemment, qui nous échappe complètement dans la lecture des traductions de l'édition Chastel que je vous impose, parce que nous ne pouvons pas apprécier la l'originalité de la langue qu'il utilise, qui est la langue toscane, comme il le dit avec insistance. Donc, la langue même est le dépôt, le dépositaire, si vous préférez, de tout ce que ces artistes ont en propre, la terminologie technique, mais aussi, lui, Vasari, va l'utiliser pour la transmettre au public. Donc il y a là une fonction lexicographique de son ouvrage qui apparaît très clairement, et que le choix de la langue toscane n'est évidemment pas étranger à cette volonté de mettre en avant l'art de son pays, de la Toscane, et de sa ville Florence. Qu'on admette le bien fondé de mon dessein, qui n'est pas d'enseigner aux autres, ignorants que je suis, mais de conserver du moins le souvenir des maîtres illustres. Depuis des dizaines d'années, je ne connais personne qui en ait enregistré quelques souvenirs. Le but de mes peines a été, en ébauchant une histoire de leurs faits et mérites, de m'acquitter de l'obligation que j'ai envers leurs œuvres, qui m'ont enseigné tout ce que je sais. Je ne me suis pas prélassé dans l'inactivité en censurant les œuvres des autres, accusant et critiquant, comme d'aucuns savent le faire. Mais voici le moment d'en venir à mon propos. Alors, évidemment, il est un peu excessif de dire qu'il ne sait pas, qu'il n'a pas censuré les œuvres des autres. Il l'a fait abondamment, surtout pour mettre en avant la gloire de Florence et de la Toscane. Et le fait de dire qu'il a tout appris des œuvres est infirmé parce qu'il dit précédemment, en disant qu'il s'est informé auprès des artistes dans les ateliers des uns et des autres. On va simplement s'arrêter à un exemple parmi les nombreux textes où nous aurions pu puiser des informations à peu près analogues sur le jugement qu'il porte sur les artistes et justement sur cette question de la sélection qu'il aborde là, de la critique, de l'esprit critique qu'il manifeste. Il s'agit d'un passage où, au départ, il parle du Siennois Simone, il s'agit de Simone Martini, dont l'art reflète un courant italien du beau style, c'est-à-dire de ce style qui va peu à peu se développer dans toute l'Europe, empruntant des élégances au gothique français, et qui est donc un artiste pour lequel Vasari devrait manifester une réelle distance, un jugement critique en tout cas. Voici ce passage. Chez le Siennois Simone, la composition des scènes est bien agencée. On commence par une observation positive. Stefano le singe et son fils Tommaso améliorèrent beaucoup la qualité du dessin, perfectionnèrent les découvertes de la perspective, les nuances et le fondu des couleurs, tout en respectant le style de Giotto. Ce sont des élèves de Giotto, j'en ai déjà parlé dans des heures précédentes, mais vous voyez là, l'idée du progrès dans les arts, eh bien, elle est mise en évidence par Martini, agence bien ses scènes, mais les autres, les élèves de Giotto, ajoutent quelque chose d'essentiel dans les découvertes de la perspective, ça c'est évidemment aller trop loin, mais en tout cas dans la découverte d'un espace illusionniste. Spinello Aretino, son fils Parri, Jacopo di Casentino, Antonio Veneziano, Lippo, Gerardo Starnina et les autres peintres qui travaillèrent après Giotto imitèrent son expressivité, son trait, ses couleurs, son style, en les améliorant quelque peu, mais sans chercher un autre but. Améliorer, il y va un peu vite là. Hein. On pourrait montrer à propos de certaines de ses œuvres que ce sont au contraire plutôt des œuvres épigonales par rapport à Giotto. Considérez mes arguments. Vous verrez que jusqu'ici, ces trois arts ont été, disons, ébauchés et qui n'ont pas encore rejoint le degré de perfection qu'ils pouvaient atteindre. Si les progrès s'étaient arrêtés là, ils n'auraient pas été très efficients. On en tiendrait à peine compte. Je ne voudrais pas que l'on me prenne pour un fruste et piètre juge. Je n'ignore pas que les œuvres de Giotto, Andrea Pisano, Nino Pisano et tous ceux groupés dans la première partie pour la similitude de leur style comparée à celle de leurs successeurs ne méritent pas d'éloges enthousiastes ni même modérés. Mais je les ai loués, je m'en rendais parfaitement compte. Mais si l'on considère le niveau de cette époque, donc de Giotto, la pénurie d'artistes, la difficulté de trouver de bons aides, on les trouvera non pas belles, comme je l'ai dit, mais miraculeuses. Et on prendra un plaisir infini à contempler les tout débuts et les premières étincelles du talent qui commençaient à renaître dans les peintures et les sculptures. Donc l'idée de renaître, la renaissance, est clairement formulée ici. Et l'idée aussi de ces œuvres miraculeuses, c'est-à-dire qui sont nées presque à partir de quelque chose de totalement irrationnel, de non calculé, de non prévisible. Et on voit là comment naissent comment se manifestent les premières étincelles, les premières l'ébauche des talents. Pour Vasari, l'artiste peut contribuer à l'histoire de l'art au fond de deux façons. Par la maîtrise d'un style et par l'ordre qu'il met dans son œuvre. Et là, on voit aussi comment le modèle rhétorique cicéronien agit toujours sur Vasari. Cicéron avait associé la clarté de la narration historique et l'ordre chronologique. Donc l'ordre chronologique, c'est l'ordre. C'est ce qui rend clairement lisible l'histoire. Alors, qu'est-ce qui permet à Vasari d'opérer des regroupements des artistes en périodes? Parce qu'au fond, c'est ça, une des grandes questions que nous devons nous poser à la suite de ces lectures. Il nous a annoncé ces périodes, il nous a donné les caractéristiques de chacune d'elles, mais nous ne savons pas très bien, au fond, ce qui donne sa légitimité à l'auteur pour dire voilà les artistes d'une période, voilà les artistes d'une autre période. Eh bien, ce regroupement se fait en période grâce à la similarité stylistique entre les artistes. Comment leur style se ressemble? En quoi ils se ressemblent? C'est là un critère de regroupement, un critère de périodisation qui est extrêmement important pour l'histoire de l'art futur. L'adoption de la notion d'école, par exemple, est une des conséquences de cette affirmation, de cette manière dont Vasari regroupe certains artistes. Et puis, ce qui, pour revenir un petit peu à ce que je disais à propos de Cicéron et de son modèle cicéronien, Vasari considère d'une certaine façon que la tâche de l'historien est semblable à celle de l'artiste. Je l'ai déjà signalé tout à l'heure. Il doit concevoir un plan dans lequel il intègre les faits et dont il fait ressortir une unité, ce qui est le but de l'histoire, de l'historia peinte par un peintre. Il faut qu'on sente l'ordonnance des figures, l'ordonnance de l'action, et que le tout, néanmoins, donne le sentiment d'une grande unité. Alors, cette notion d'ordre dont j'ai déjà parlé est une notion tout à fait importante et dans la peinture, dans le commentaire de la peinture, mais aussi dans l'histoire. La relation de l'historien avec l'histoire s'appelle ordiner, chez ordre, donc chez un historien comme Leonardi, qui publie en 1554 ses dialogues de l'invention poétique, sur l'invention poétique. Et cet auteur, Leonardi, discute l'ordre des temps, donc la question de l'ordre des temps, de la manière dont les temps se succèdent dans la vision de l'historien. Et pour lui, les temps, les périodes, si vous préférez, sont des qualités collectives partagées par des individus à une même époque. Avec le livre de Leonardi, nous sommes en 1554. Donc ces qualités collectives partagées à une même époque par plusieurs individus donnent une cohérence à une époque. C'est d'eux que vient cette unité dont je parlais tout à l'heure. Et à propos de ces tempi, comme dit Leonardi, Vasari emploie parfois le mot de « état » ou de « secolo », ce qui est une période donnée, un moment qui peut être plus ou moins long. Et Vasari opère une analogie entre tempi et maniera, c'est-à-dire entre les temps, les moments, les périodes et les styles. La maniera, c'est le style. Nous entrons là dans la définition d'une histoire fortement esthétisée, je dirais. Une histoire qui est commandée par l'esthétique, qui est commandée par les caractéristiques esthétiques de groupes artistiques. Lorsqu'il revendique sa place d'artiste et non pas d'écrivain ou d'historien, Vasari, en même temps, introduit une périodisation stylistique. Et ça, c'est quelque chose qui est au moins aussi important que le fait d'avoir écrit des biographies d'artistes. C'est cette conception du récit historique périodisé selon des styles, c'est-à-dire selon des caractéristiques propres à des individus ou à des groupes. Alors, on peut très bien comprendre cette originalité lorsqu'on repense à Pline. Chez Pline, dans son Histoire naturelle, c'est la succession des œuvres qui constitue la succession véritablement chronologique. Tandis que Vasari prend en compte le style pour établir une succession chronologique. Donc, un élément qui résulte de l'analyse des œuvres et de la singularité qu'elles manifestent. Alors, cette question du style est une question, elle aussi, très importante, et je voudrais m'y attarder un peu, parce que nous la trouvons formulée avant. Vasari, chez un auteur que Vasari a beaucoup lu, dont il va parler très souvent, qui est un auteur ancien, romain, Vitruve. Vitruve, l'auteur des 10 livres d'architecture, qui est au fond le premier à faire apparaître dans une analyse de l'œuvre d'art la notion de catégorie stylistique, et notamment à propos des peintures pompéiennes. Il évoque les peintures en harmonie avec la nature, peintes, dit-il, par les anciens, antiqui. Alors ça, c'est Vitruve qui parle, hein. Nous sommes au siècle d'Auguste, ne l'oublions pas. Donc il parle des anciens qui firent les premières peintures sur les enduits, imitant les différentes bigarrures du marbre. Ce sont ces peintures que l'on connaît encore, où, montrant d'une manière illusionniste de fausses pierres, de faux marbres, qu'évoque ici Vitruve. Alors, après avoir parlé de cela, il dit ceci. Mais cette belle nature dans laquelle les anciens allaient prendre leur modèle, nos goûts dépravés la repoussent aujourd'hui. Vous voyez là aussi comment Vitruve opère une coupure entre l'art des anciens, qui était un art qu'il apprécie, dont il fait notamment l'éloge, et qui l'oppose à son temps, à lui, qui est une époque dépravée. On ne voit plus sur les murs que des monstres au lieu de ces représentations vraies, naturelles. En place de colonnes, on met des roseaux. Les frontons sont remplacés par des espèces de harpons et des coquilles striées. Oui, il y a ici un problème de traduction que je n'ai pas répercuté sur le texte que je vous donne à lire, parce que ces coquilles striées traduisent en fait Harpagae et Mituli, mais ça c'est une graphie médiévale qui a l'air peu certaine. Et Perrault, lorsqu'il va traduire le traité de Vitruve, lisait non pas cela, mais Harpaginetuli, qui est tout à fait autre chose, qui est un autre mot, traduisant ce terme par entortillement de tige. Simplement pour vous dire que la terminologie vitruvienne, elle suscite parfois des discussions, en tout cas des difficultés, et ce qui nous importe ici, c'est que le sens général est à peu près celui de quelque chose de complexe, d'alambiqué, de peu naturel, avec des feuilles frisées et de légères volutes. On fait des candélabres soutenant de petits édifices, du haut desquels s'élèvent, comme y ayant pris racine, quantité de jeunes tiges ornées de volutes et portant sans raison de petites figures assises. On voit encore des tiges terminées par des fleurs, d'où sortent des demi-figures, les unes avec des visages d'hommes, les autres avec des têtes d'animaux. Or, ce sont là des choses qui ne sont pas, qui ne peuvent être, qui n'ont jamais été. Cependant, ces nouvelles fantaisies ont tellement prévalu que, faute d'un homme qui soit en état de les apprécier, les arts dépérissent journellement. Quelle apparence, en effet, que des roseaux soutiennent un toit, qu'un candélabre porte des édifices, que les ornements de leur fête, c'est-à-dire des tiges si faibles et si flexibles, portent des figures assises, ou que des racines et des tiges produisent des fleurs et des demi-figures. À la vue de ces faussetés, il ne s'élève pas un mot de blâme. On s'en amuse, au contraire, sans prendre garde si ce sont des choses qui soient possibles ou non. Les esprits obscurcis par la faiblesse de leur jugement ne sont point en état d'apprécier le mérite, la beauté d'un ouvrage. Une peinture n'est pas digne d'approbation si elle ne représente point la vérité. Il ne suffit pas qu'un sujet soit peint avec tout le prestige de l'art pour qu'on doive immédiatement le juger avec avantage. Encore faut-il que le dessin n'offre dans aucune de ses parties rien qui blesse la raison. Donc, comme je vous l'ai dit, Vitruve parle des anciens, se situe par rapport à une période de l'histoire dont il a, d'une certaine manière, de la nostalgie. Et ce qu'il décrit, ce sont des grotesques, ce que Bellori, plus tard, appellera des grotesques, lorsque Bellori décrira les peintures du palais Farnèse. Et ce sont ces grotesques qu'a fait renaître, en particulier dans le domaine du goût, un peintre comme Raphaël. Eh bien, Vasari va remployer tout ce vocabulaire, cette fois-ci, non pas pour juger l'art de son temps immédiat, bien sûr, milieu du XVIe siècle, mais pour juger l'architecture gothique. Voici ce qu'il dit. Il y a un autre style appelé gothique, dont les éléments décoratifs et les proportions sont très différents des antiques et des modernes. Les bons architectes d'aujourd'hui ne l'emploient pas. Ils le fuient comme monstrueux et barbare. Chacun de ces éléments étant dépourvu de toute règle, on peut parler de confusion et de désordre. Ces constructions sont si nombreuses qu'elles ont infecté le monde. Les portes sont ornées de colonnes fines et torses, comme des ceps de vigne, incapables de soutenir un poids, si léger soit-il. Sur les façades et les parties décorées, de maudites petites niches s'empilent les unes sur les autres, avec tant de pyramides, de pinacles, de feuilles, qu'il semble impossible que cet assemblage arrive à tenir debout et à garder son équilibre. Tout cela semble être en papier plutôt qu'en pierre ou en marbre. Ça, c'est une critique terrible à cette époque, c'est de dire qu'un matériau ne ressemble pas à ce qu'il est. Un matériau ressemble à quelque chose. La pierre ressemble à du papier, imaginez donc. Il y a tant de saillies, de ruptures, de consolettes, de vrilles, que tout semble disproportionné. Souvent, à force d'empiler motif sur motif, le sommet d'une porte va jusqu'à toucher le toit. Ce style fut créé par les Goths. Après avoir ravagé les constructions antiques et tué les architectes dans les guerres, ils élevèrent avec les survivants des édifices de ce style. Ils lancèrent des voûtes sur des arcs brisés et couvrirent de ces maudites constructions toute l'Italie, qui, lasse d'en voir, a fini par se débarrasser complètement de ce style. Que Dieu préserve tout pays de cette conception et cette manière de bâtir. Leur difformité en regard de la beauté de nos monuments fait que ces ouvrages ne méritent pas qu'on en parle plus longtemps. Passons donc aux voûtes. Bon, il n'a tout de même pas parlé assez longuement de cette architecture gothique. C'est évidemment l'idée, la légende selon laquelle les peuples barbares, les Gaules, les Visigoths, etc., qui ont envahi l'Europe, seraient à l'origine de cette architecture, ce qui est évidemment un non-sens parfait. Je rappelle, par exemple, que dans son art poétique, Horace avait proclamé la liberté de l'artiste à condition qu'elle n'offense pas les lois du décorum. Il disait aussi que les artistes ont le droit d'utiliser leur imagination, mais pas au point, dit-il, d'unir le doux au sauvage et que des serpents peuvent être accouplés avec des oiseaux, des brebis avec des fauves. Donc l'avis de Horace est tout à fait dans le même sens. Il y a une convention selon laquelle l'artiste peut exercer sa liberté jusqu'à un certain point, mais pas au-delà. Il ne peut pas commettre ces créatures hybrides dont il est question ici. Alors évidemment, il faudrait voir sur quelle connaissance du gothique Vasari fonde véritablement son appréciation. Alors là, on peut mentionner le fait qu'il a tout de même connaissé Venise, par exemple. Il y a à Venise un gothique urbain, un gothique profane, aussi religieux, mais aussi profane, qui est extrêmement intéressant et qui n'a évidemment pas grand-chose de commun avec le gothique des pays du nord des Alpes. Il connaissait bien sûr aussi l'architecture de Florence, là où elle manifeste dans le campanile du Duomo le souvenir de l'architecture gothique. Alors, le style pour Vasari, c'est quelque chose qui doit être conforme à une norme, Et tout ce qui s'oppose à une norme, à un ordre établi, ne peut convenir. Et pourtant, il ne souhaite pas que l'artiste ne manifeste pas son inventivité. Donc il n'exclut pas la subjectivité, mais elle doit s'inscrire à l'intérieur d'un système normatif. C'est là une très grande difficulté, je dirais tout simplement une très grande contradiction, dont Vasari n'arrive pas à se défaire. Et il y a cette idée de progrès que l'on trouve dans la préface du livre 3 de Vasari, l'idée d'un progrès, donc de quelque chose qui peut, quelque chose qui est cumulatif, pardon, les choses avancent au fur et à mesure vers la perfection. L'idée de perfectibilité est ce qui guide constamment les choix que Vitruve opère parmi ses biographies et ce qu'il retient à l'intérieur même de l'œuvre de chaque artiste. Alors il parle des progrès faits par l'architecture, la peinture, la sculpture, les maîtres apportant ce qui manque à la première époque dans la deuxième époque, en particulier la règle, l'ordre, les proportions, le dessin et le style. Donc le style n'était pas compris dans la définition de la première époque. C'était quelque chose de beaucoup plus chaotique. C'est dans la deuxième époque que ces choses-là arrivent. Et dans la troisième époque, on va s'élever à la perfection suprême, précisément avec Michel-Ange. Alors, je voudrais encore vous dire que il va faire apparaître la nature du progrès artistique selon, donc, les cinq points suivants. La règle, qui consiste à mesurer les monuments antiques et à conserver leur plan dans les monuments modernes. Donc ça, c'est une règle fondamentale. L'ordre, qui consiste à différencier les ordres antiques, corinthiens, ioniques, pardon, toscans aussi, etc. Donc, distinction des règles, des ordres, pardon. La mesure, qui veut que l'on représente en architecture et en sculpture des objets qui imitent ce qu'il y a de plus beau dans la nature, ce que met en évidence le dessin, et enfin le style, procède de l'usage de représenter ce qu'il y a de plus beau, d'assembler les plus belles mains, les plus belles têtes, les plus beaux corps, les plus belles jambes, afin d'obtenir la plus belle figure possible et d'en tirer parti pour tous les personnages de toute composition. C'est pourquoi on dit le beau style. Donc le style n'est pas tant ce que nous entendons aujourd'hui par le caractère, je dirais presque autographe d'un artiste, mais c'est plutôt, c'est déjà normatif. Le style, c'est déjà une norme. C'est de parvenir à quelque chose qui va tendre vers le beau style, c'est-à-dire vers la perfection. Il y a donc perfectibilité et les styles qui n'entrent pas dans cette perfectibilité ne peuvent qu'être inférieurs. Alors, on en arrive à ce point. Parmi les vivants et les morts, dit Vasari, celui qui remporte la palme, les dépasse et les écrase tous, c'est le divin Michel-Ange Buonarroti. Sa primauté ne s'exerce pas dans un art, mais dans les trois, architecture, sculpture, peinture. Et puis, Vasari passe à un problème d'ordre économique très intéressant. Il prétend que l'acquisition de la perfection permet à un artiste de travailler plus vite. C'est-à-dire qu'il associe maîtrise technique à la perfection formelle. Et que travailler plus vite, ça veut dire multiplier les mécènes, les clients potentiels. Travailler plus vite, c'est savoir répondre à davantage de commandes. Et ça, c'est quelque chose qui est évidemment important, nouveau, dans le livre de Vasari. C'est ce souci de mettre en rapport le client potentiel et les artistes. Il y a vraiment un projet d'économie de la production artistique chez Vasari. Et enfin, le dernier point, je vais être obligé d'être un petit peu court, même très court. Le troisième point de l'évocation de l'œuvre de Vasari, je voulais m'attarder à la description et à l'analyse des œuvres, en particulier à l'ekphrasis qui est cette façon de décrire les œuvres, d'évoquer les œuvres à travers une description textuelle. Il est évidemment très intéressant, comme l'a fait Svetlana Alpers, d'examiner la façon dont Vasari décrit les œuvres d'art. Selon Alpers, il y a quatre types distincts de textes sur l'art chez Vasari. Les vies elles-mêmes, les vies d'artistes, qui sont conformes au modèle de Plutarque. La description des œuvres dans la tradition, justement, de l'ekphrasis Homère ou Philostrate. Ensuite, les introductions à chaque partie qui concernent le développement des styles. Et enfin, les préfaces techniques dans la tradition de Vitruve. Donc, quatre types de textes sur l'art, quatre formes de textes sur l'art, qui vont devenir des formes constitutives de la plupart des histoires de l'art qui naîtront au XIXe siècle. Alors, chaque œuvre mentionnée par lui peut être considérée comme un moment du développement artistique, mais en même temps comme narration d'actions et d'émotions humaines. Dans chaque description que donne Vasari, il y a un éloge de l'imitation, et en même temps, cet éloge de l'imitation se mêle au récit des affects qui sont montrés dans le tableau ou dans la fresque, et il veut nous persuader de cette façon de la réalité de la scène décrite, ce qui est quelque chose d'assez fréquent dans l'ekphrasis antique. Au fond, la manière dont il s'emporte quasiment dans la description d'une scène doit nous amener à ne plus savoir s'il nous parle d'un tableau ou s'il nous parle de la réalité. Comme si le fait de parler bien d'une œuvre d'art, c'était parler d'une scène réelle. Alors, j'avais choisi de vous parler de l'un ou l'autre passage où il fait précisément, où je souhaiterais vous montrer l'image et vous faire entendre le texte de Vasari, pour vous montrer qu'il nous entraîne dans une lecture de l'image totalement subjective, négligeant des aspects très importants de l'image, pas seulement des aspects évidemment liés au style, comme nous le ferions aujourd'hui, mais surtout liés au contenu même de l'histoire, au récit lui-même, qu'il néglige complètement parce qu'il n'a qu'une idée, c'est de parler de telle scène. Par exemple, l'idée qu'il obsède dans le massacre des innocents de Ghirlandaio à Sainte-Marie-Nouvelle, c'est d'évoquer ces enfants dans ce massacre, ces enfants qui sont jetés à terre par des soldats, et un enfant qui voit du sang au sein de sa mère. Vous pouvez chercher très longtemps dans cette image, vous ne trouverez jamais cet enfant qui est censé boire le sang du sein de sa mère. Donc il y a là toutes sortes d'exagérations rhétoriques dans lesquelles il se laisse entraîner. Peut-être tout de même pourrions-nous terminer par Michel-Ange, comme il le fait lui-même, en lisant ce texte. Des grands esprits dotés de savoir-faire devaient aux lumières apportées par Giotto et ses successeurs de pouvoir démontrer leur talent, à proportion des dons que leur consentait la faveur des astres et l'équilibre de leur tempérament. Ils aspiraient à une qualité artistique qui assimilât la grandeur de la nature pour atteindre le plus possible au savoir supérieur de l'intelligence. Tous s'y employaient, mais en vain. Dans son infime bonté, le maître du ciel tourna des regards cléments sur la terre et devant le spectacle de ses innombrables efforts inutiles, de ses études pleines d'ardeur et sans résultat, de cette présomption humaine aussi éloignée du vrai que les ténèbres de la lumière, et pour nous tirer de toutes ces erreurs, il se résolut à envoyer sur terre un esprit également apte à tous les arts et à toutes les disciplines, démontrant à lui seul où est la perfection de l'art du dessin pour les lignes, les contours, les ombres et les lumières, l'effet du relief en peinture, les opérations judicieuses en sculpture et la production en architecture de demeures commodes et solides, hygiéniques, plaisantes, de belles proportions et enrichies de toutes sortes d'ornements. Il décida en outre d'y adjoindre la vraie doctrine morale, agrémentée de la douceur de la poésie, pour que le monde en fît dans son admiration un miroir exceptionnel de la vie, des œuvres, des mœurs pieuses et de toutes les activités, pour que nous désignions en lui un objet du ciel plutôt que de la terre. Comme il voyait que dans ses exercices et ses arts si étonnants, peinture, sculpture, architecture, les talents ont toujours été en Toscane d'une grandeur tout à fait insigne, en se soumettant aux travaux et aux exercices techniques, plus que quiconque en Italie, il tint à lui donner pour patrie Florence, comme la plus digne des cités, pour mettre le comble à la perfection de tous ses mérites à travers un de ses citoyens. Voilà comment est introduite la vie de Michel-Ange, envoyé par le ciel et qui va transformer non seulement l'histoire de l'art, mais qui va transformer aussi la réputation de Florence, qui sera dorénavant et jusqu'à la fin des temps universelle. Merci. Donc rendez-vous le 15 janvier, 10 heures, dans cette salle.